Le petit Johannes, chapitre 10. À son réveil, l'esprit un cœur assoupi, Johannes ressentit vaguement qu'au cours de son sommeil, quelque changement avait dû se produire. Rien ne le pressait de s'en rendre compte. Même il eût préféré ne pas sortir du rêve qui l'avait charmé et qui se dispersait en lambeaux. Il avait revu, tel qu'autrefois, Robbie, lui effleurant les cheveux d'un doux geste. Il avait revu son père. Presto. Le jardin, l'étain. Aïe! D'où lui venait donc cette douleur? Johannes ouvrit les paupières. Dans la lumière morne du matin, un petit homme, debout à son chevet, lui tira les oreilles. Johannes se fit étendu dans un lit, et le jour autour de lui était terne et inégal comme dans une chambre. Un visage se pencha sur sa couche et à l'aspect de Plucheur qui, d'une apparence plus humaine, moins valeute, n'avait pourtant rien perdu de sa hideur inquiétante, toutes les noires misères de la veille lui revint à la mémoire.
« Non, non, laissez-moi à mes rêves, » dit-il. Mais Plucheur le secouait.
« De quoi t'avises-tu, paresseux? Revêt est chose folle et ne t'avancera guère. » Un homme est ici-bas pour travailler, méditer, chercher.
Je ne veux pas être un homme, il me plaît de rêver.
Tu as beau faire, tu dois obéir. Tu es sous ma garde et nous allons travailler ensemble. Je t'aiderai à toucher au but que tu poursuis et je ne te lâcherai pas que tu ne sois satisfait.
Johannes ressentit une vague épouvante, mais une force le surmontait contre laquelle, désarmé, il ne pouvait lutter. Adieu désormais les dunes, les forêts et les fleurs. Tout le jour, il demeurait confiné dans une petite chambre obscure. Aussi loin que pouvaient porter ses yeux, il n'apercevait, par les vitres, que des bâtisses. Toujours des bâtisses, noires, uniformes, en longues rangées. D'épais bouillons de fumée s'élevaient dans les airs pour redescendre en brouillard de suie dans les rues. Comme des fourmis affairées, les hommes y grouillaient et une rumeur sourde et incessante montait de leur cohue.
« Vois, Johannes, » dit Plucheur, « jusqu'au bord de l'horizon s'érigent des maisons et se croisent des rues. Ce spectacle n'efface-t-il pas tout ce que tu vis jusqu'à ce jour ?»
Johannes écoutait avec un intérêt inquiet et c'était comme si l'on eût découvert à ses yeux quelque vermine monstrueuse. Il se figurait, assis sur la croupe de la bête, voir le sang épaissi couler dans les veines. La laine noire sortait par une multitude de naseaux. Il s'épouvantait d'entendre son grondement menaçant.
« Vois, Johannes, comme il s'hâte !» continua Plucheur. « Maint souci les taillons, mais nul d'entre eux, et c'est là le plus drôle, ne peut dire au juste ce qu'il poursuit. » Après quelque temps, il ne manque pas de se rencontrer nez à nez avec un certain le Camard.
Qui est-ce?
Un de mes vieux compagnons. Un jour ou l'autre, je te le présenterai. Le Camard demande « Me cherchez-vous ? » La plupart répondent « Oh, non, loin de là !»«
N'importe, » replique le Camard, « me voici, vous avez à me suivre. »
Tous se taisent et obéissent. Johannes comprit qu'il s'agissait de la mort.
« Et les choses se passaient toujours de la sorte ? » demanda-t-il.
« Assurément, la foule des hommes se renouvelle sans arrêt. Chaque matin, ils se remettent en quête d'un but qu'ils ignorent, jusqu'à ce qu'enfin ils ont affaire à le Camard. Les choses font de ce train depuis pas mal de temps, il n'y a pas apparence que cela change.
Et moi-même, Plucheur, rencontrerai-je aussi ?»
Faut-il?
Immanquablement. Mais qu'importe, notre conseil est de chercher, chercher sans cesse.
Mais le livre, Plucheur, vous vous étiez engagé à me le faire découvrir.
Sans doute, je ne me dédie pas. En tout cas, si nous cherchons en vain, au moins l'aurons-nous fait en connaissant l'objet que nous sollicite. Et c'est à Vestic que nous le devons, alors que tant de gens, se disant des philosophes, s'agitent leur vie durant en se demandant « Mais qu'y a-t-il donc qui nous pousse ?» Quand le Camard les somme, il leur faut plier bagages comme les autres.
Oh, c'est effroyable!
Mais du tout! Le camard est bonhomme, seulement on méconnaît son naturel.
Quelqu'un menait grand fracas dans l'escalier. Des pas retentissaient sur les marches sonores. On heurta la porte et ce fut comme si on frappait le bois avec du fer. Un homme parut, de haute stature, aux yeux caves et aux longues mains décharnées. Une haleine glacée semblait le précéder.
« Comme vous tombez !» s'écria Plucheur. « Nous parlions précisément de vous. Comment va la santé ?»«
Je suis sur les dents, tant j'ai de besogne, » répondit le camard, en essuyant la sueur qui perlait à son front blême et osseux.
Intimidé, Johannes considérait sans bouger le nouveau venu, dont les yeux, du fond de leurs orbites creuses, se dardaient obstinément sur lui. Ils étaient graves et sombres, ces yeux, nullement cruels ni hostiles. Après un moment, Johannes se remit de son émoi, il respira plus à l'aise, les battements de son cœur se calmèrent.
« Voici Johannes, » dit Plucheur à le camard. « Ce garçon a entendu vanter un livre où se trouve révélé pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, et nous allons nous mettre ensemble à sa recherche. »
« Ah, parfait !» fit la mort en hochant la tête vers l'enfant, en signe d'assentiment.
Il craint de ne pas trouver le livre, mais il doit commencer par faire de son mieux.
« Certes !» dit la mort, « il faut s'appliquer. »
« Il voyait en vous quelque chose d'effroyable. Reconnais-tu maintenant, » dit-il en s'adressant à Johannes, « que tu t'es trompé ?»«
Eh là, oui !» répondit la mort d'un ton bienveillant. On colporte sur mon compte beaucoup de médisance. Je n'ai pas la mine engageante, mais je suis cependant tout le contraire de ce que feraient croire les apparences. »
Il sourit vaguement en homme préoccupé de choses graves sur lesquelles il ne tient pas à s'étendre. Ses regards pensifs se détournèrent de Johannes pour errer sur la grande ville. Longtemps, Johannes hésita avant de parler. Enfin, il se hasarda et doucement.
« Voulez-vous m'emmener avec vous ?»«
Que demandes-tu, mon garçon ?» fit la mort en sortant de sa rêverie. « Pas maintenant. Tu dois auparavant grandir et devenir un homme. »«
Je ne veux pas devenir un homme, ni le rassembler. »«
Que tu le veuilles ou non, il n'y a rien à y faire. » Et, à la façon dont elle prononçait cette phrase, on devinait que la mort devait, à tout instant, l'avoir sur les lèvres.
« Mon ami Plucheur, » continua le camard, « t'enseignera, grâce à une méthode excellente, quoiqu'il n'y en ait pas qu'une seule, comment l'on devient un homme. C'est une chose qui n'est pas à dédaigner. »
« Chercher, observer, réfléchir, » conclut Plucheur.
« C'est cela, » dit la mort, « et à qui allez-vous confier ce jeune homme ?»«
À mon ancien élève, le docteur Chiffre, » répondit Plucheur.
C'est en effet un bon maître, et de surcroît, un homme tout à fait exemplaire. Il est, dirais-je même, parfait dans son espèce.
Reverrai-je Robbie ? Demanda Johannes en tremblant.
De qui pars-tu ? S'enquit la mort.
Ah, ce garçon est très précoce, intervint Plucheur. Il est amoureux et de plus, se prend lui-même pour un elfe. N'est-ce pas drôle ?
Et Plucheur eut un rire sournois.
Non, répondit le camard à Johannes, ces fantaisies, le docteur Chiffre va te les désapprendre. Qui se voue à des recherches aussi austères que les tiennes, doit faire son deuil du reste, ou tout ou rien.
J'en ferai un homme d'une seule pièce, et je lui ferai bien voir ce que c'est qu'aimer. Comptez sur moi.
Plucheur se reprit à rire. La mort riva de nouveau ses yeux creux sur le pauvre Johannes, qui contenait avec pince ses sanglots, car il avait honte de sa faiblesse devant la mort.
Le camard se leva brusquement. « Je perds mon temps en vingt paroles, et la besogne me réclame. « Bonjour, Johannes. Un jour ou l'autre, nous nous retrouverons. Il ne faut pas me craindre. »«
Je ne vous crains pas, » répondit-il. « Même je vous supplie une fois encore de me prendre avec vous. »
La mort, accoutumée à une pareille prière, la repoussa doucement. Non, Johannes, occupe-toi de tes travaux, cherche et observe. Ne m'appelle plus. Quand je viendrai, il sera temps. Après le départ de Le Camard, Plucheur se comporta de la façon la plus extravagante. Il bondissait par-dessus les chaises, escaladait l'armoire, se sujet sur la cheminée, faisait des culbutes sur le plancher et des tours périlleux sur la pluie de la fenêtre large ouverte. « As-tu vu mon bon camarade Le Camard? Ne le trouves-tu pas charmant en dépit de son air renfrogné? Il a aussi ses bons moments, quand il est satisfait de lui-même. Mais la plupart du temps, sa besogne l'excède. Elle manque en effet un peu de variété. Mais qui donc lui prescrit ce travail ?» Plucheur fixa Johannes de ses yeux défiants qui tâchaient de lui sonder l'âme. « Pourquoi me poser cette question ? Il suit son chemin et s'en prend à qui il veut. » Plus tard, Johannes constata qu'il en était autrement, mais il ne pouvait que croire à Plucheur sur parole. Ils descendirent dans la rue et traversèrent les cohues. Johannes s'étonna de voir les passants, tous de noir vêtus, rire entre eux et plaisanter. Plucheur saluait un grand nombre de gens, mais jamais personne ne lui rendait sa politesse. Tout le monde, au passage, affectait de ne pas l'apercevoir. « On dira, fit Plucheur, qu'ils ne me connaissent pas. Mais va, quand nous sommes seuls à seuls, ils ne peuvent plus me renier et c'est l'heure pour eux de déchanter. » Johannes avait le sentiment que quelqu'un dans la rue le suivait de près. Se retournant, il aperçut Le Camard qui, à grands enjambées et sans bruit, circulait entre les groupes. Il adressa à Johannes un salut amical.
« Les hommes, le voient-ils ? » demanda Johannes.
« Sans doute, répondit Plucheur, mais, tout comme pour moi, ils détournent la tête. D'ailleurs, pour ce qui me concerne, je ne leur en garde pas la moindre rancune. » Le tumulte étourdit Johannes au point de le divertir de son souci. Les rues étroites aux hautes maisons dont les corniches découpaient une bande étroite de ciel, les allées et venues de la foule, le traînement des pas et le roulement des voitures, comme un coup de vent à la surface d'un étang, troublèrent la vision que la rêve de la nuit avait laissée dans son esprit. Il lui sembla qu'il n'y avait plus sur la terre que des murs, des fenêtres et des hommes qui l'emportaient avec eux dans leur tourbillon effréné. Plucheur et Johannes atteignirent, dans un quartier retiré, une maison à façade austère, percée de mornes croisées sans rien qui les ornât. Johannes, dès son entrée, respira une odeur âcre et composite où dominait un relent moissi de caveau. Tout seul, dans une salle, un homme était assis, entouré d'instruments étranges, d'objets en verre et en cuivre tels que Johannes n'en avait jamais vus. Un seul rayon de soleil pénétrait et allumait de ses reflets des bocaux de verre. L'homme assis regardait obstinément dans un tube de cuivre, si profondément absorbé qu'il ne leva point la tête. Johannes, en s'approchant, surprit ces mots murmurés à voix basse.
« Puisse-je savoir ? Puisse-je savoir ?»
Alors, du coup, il se rappela Lestik. Sur une longue blanchette noire, gisait quelque chose d'indistinct, de blanc et d'un aspect laineux. « Bonjour, docteur !» fit Plucheur. Mais le docteur ne répondit point. Soudain, Johannes frissonna. La forme blanche, sur laquelle s'attachait son regard, se tordait confusivement et le reconnut le ventre duveté d'un jeune lapin. La tête, avec son petit museau remuant, était maintenu par des écrous de fer et les quatre pattes étaient ligotées le long des flancs. Les efforts désespérés que tentait la bête captive pour se libérer de ses entraves s'épuisèrent vite et plus rien bientôt ne révéla qu'elle vécut, sinon le halètement de sa gorge ouverte et sanglante. Une angoisse impuissante agrandissait les yeux bonasses du lapin. Johannes crut le reconnaître. Et là, n'avait-il pas devant lui ce même petit corps
qui lui avait servi de chevet moelleux pendant la nuit mémorable où il rencontra le roi des elfes. Les anciens souvenirs le surmontèrent violemment. Il s'élança. « Attends que je te délivre !» Aussitôt, il se mit à défaire les liens qui serraient les pattes. Mais on lui cessait les deux mains et un rire acerbe grinça à ses oreilles. « Quoi, Johannes ? Que va donc penser le docteur Chiffre ?»« Que vient faire ici ce gamin et que désire-t-il » s'enquit le savant stupéfait. « Il veut devenir un homme. Aussi je vous l'amène, malgré qu'il soit encore bien jeune et bien novice. » Puis, se tournant vers Johannes, « Ce n'est pas de la sorte que tu trouveras ce que tu cherches. »« Non, ce n'est pas la manière, » ajouta le docteur Chiffre. « Ah, docteur, délivrez le petit lapin !» supplia Johannes. Mais Plucheur lui tint si fortement la main entre les siennes que Johannes se tordit de douleur. « De quoi sommes-nous convenus, mon petit bonhomme ? » fit-il d'une voix cinglante. « Nous ne sommes plus ici dans les dunes en compagnie de Licerons et d'Abad. Nous voulons devenir un homme. Un homme ! Embrasses-tu la portée de ce mot ? Préféreras-tu demeurer un enfant ? Si tu ne te sens pas la force de me suivre, alors va-t'en et continue seul ta route. » Johannes ne dit mot et se résigna. Ne voulant pas qu'on le soupçonnât de faiblesse, il ferma les yeux pour ne plus voir le supplice de l'animal. « Brave garçon !» s'écria le docteur Chiffre. « Tu as l'âme un cœur trop sensible pour commencer. D'ailleurs, la première fois qu'on vient ici, ce n'est que pour se rendre compte. Moi-même, je suis rebuté par la besogne que je fais et l'évite autant que possible. Mais il faut bien se dire qu'une fois que sont en jeu le salut de notre espèce et l'avancement des sciences, le sort de quelques lapins emporte peu. « Entends-tu ? » fit Plucheur avec emphase. « La science ! L'humanité !» Le savant, continua le docteur Chiffre, est au-dessus des autres hommes et son rang même l'oblige à faire taire cette vaine sensibilité qui est le propre des gens du commun. Veux-tu être un de ces privilégiés ? T'y sens-tu appelé ? » Johannes hésita. Il ne savait au juste ce qu'il devait penser. Il s'interrogeait anxieusement, comme le fit jadis le jeune Hanneton au début de sa carrière. À la fin, il répondit « Je désirerais trouver le livre dont Vestic m'a parlé. » Le docteur Chiffre eut un regard de stupeur et demanda « Vestic ?» Plucheur intervint aussitôt. « C'est sa marotte, docteur. Il prétend atteindre à la sagesse suprême. Il veut pénétrer jusqu'à l'essence des choses. » Johannes fit un signe de tête. « En ce cas, aie l'âme forte, ni petitesse, ni faiblesse, sinon je t'abandonne. Songe bien à la devise, tout ou rien. » Et, de sa main tremblante, Johannes aida à resserrer autour des pattes du lapin les liens qui s'étaient relâchés.